France Musique.
Chez cet esprit curieux qu'est Alain Badiou, la musique ne saurait être réduite au grand répertoire. Il l'a montré dans Logique des mondes, en entrelaçant un parcours à travers la création musicale du XXe siècle et une réflexion générale sur le sujet. Façon de dire que l'histoire de la musique aussi peut avoir quelque chose à suggérer aux penseurs. Alain Badiou, philosophe et mélomane, épisode 4, les temps modernes. Le Chorus Mysticus qui referme les scènes de Faust et la 8e symphonie de Gustav Mahler. C'était Leonard Bernstein en 1975. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Sujet d'étonnement, tout d'un coup, quand on préparait cette émission, on se met à parler de Gustav Mahler et la pièce dont vous évoquez le nom avec moi, c'est la 8e symphonie qui est pourtant de ses œuvres certainement la plus mal aimée, la plus complexe, la plus gigantesque. Aussi la symphonie des mille. Qu'est-ce qui vous attache à cette symphonie de Mahler?
Eh bien, c'est le sentiment d'un effort suprême de Gustav Mahler pour, en réalité, soutenir ce qu'il sent être l'achèvement de toute une époque de la musique, sans avoir, me semble-t-il, lui, les moyens de passer outre. Et je vois Mahler comme une fin glorieuse qui se sait être la fin, l'héritière, mais qui n'est pas encore la possibilité du nouveau, étant entendu que ce nouveau sera constitué d'élèves de Mahler, en vérité tous. Alors ça, c'est pathétique. Alors évidemment, la 8e en est le symbole pour moi. On peut dire que c'est une récapitulation de toute la musique antérieure, d'abord par la référence prosodique à un texte sensationnel et archi-connu de Goethe, qui est la conclusion fabuleuse de toute la construction de son Faust. Ensuite, l'utilisation synthétique de la totalité des moyens disponibles de la musique, un orchestre gigantesque, un grand chœur, un chœur d'enfants, des solistes au chant. On ne peut pas faire beaucoup plus. Hein? C'est tout juste s'y tiennent sur des grandes scènes. Hein. On l'a appelé, en effet, comme vous le rappelez, la symphonie des mille. Et donc, je vois dans cette, j'entends même dans cet effort de Mahler, un côté à la fois crépusculaire, comme ça, et en même temps emphatique, gonflé, considérable, trop considérable, comme est toujours la volonté d'une fin. Entre parenthèses, on pourrait rappeler que la question de la fin en musique est une question difficile. Même de très grands compositeurs font quelquefois des fins de symphonie décevantes. Il faut le reconnaître. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que le problème lui-même est extrêmement difficile. Qu'est-ce que c'est que finir? Pourquoi une œuvre musicale devrait-elle finir, après tout? Quel est le sens interne, immanent, de la fin? Les musiciens, souvent, emploient des moyens un tout petit peu extérieurs pour faire savoir que c'est la fin, soit d'amplification sonore, soit de répétition. Beethoven lui-même a du mal à finir, il faut dire ce qu'il y a. Il finit souvent dans une répétition obstinée. Et donc, même des grands musiciens sont confrontés à cette question de la fin, comme s'il y avait dans l'essence de la musique quelque chose d'interminable, à vrai dire, quelque chose qui ne se prête pas aisément au sentiment de la fin, sauf par des moyens qui sont souvent des moyens un peu lourds, un peu grossiers. On fait savoir à l'auditeur que c'est fini, voilà. Mahler, il est pris là-dedans, à une échelle encore bien plus considérable, qui est la fin de toute une époque de la musique, en réalité. Il est suffisamment, c'est aussi un grand penseur, un grand musicien, il est aussi conscient que cette fin, il peut la traiter, l'habiter, la mentionner, mais que lui, en tout cas, ne passera pas outre. Et j'ai une tendresse pour cette énorme 8e symphonie qu'on n'arrive pas à jouer parce qu'il y a trop de moyens, trop de monde, etc. Parce que, justement, elle est le symbole un peu attristant et en même temps grandiose de ce complexe de la fin.
Les temps modernes, c'est plutôt la musique moderne dont nous allons parler aujourd'hui avec vous, Alain Badiou, celle que l'on fait commencer en général à la trilogie viennoise, la seconde, hein, celle, comme vous le disiez tout à l'heure, des disciples de près ou de loin de Gustav Mahler, c'est-à-dire Schoenberg, Berg, Weber. À quel moment dans votre histoire personnelle vous découvrez, vous, cette trilogie-là, cette musique et cette modernité?
Ça, je m'en souviens très bien, c'est dans la composition entre des discussions avec quelques-uns de mes condisciples, si je puis dire, pendant le service militaire, dans la fanfare de la 3e région aérienne, où je jouais du piccolo. Je vous signale d'abord, à titre d'anecdote, que tous les samedis matins, nous étions convoqués par l'adjudant de la fanfare, et nous devions lui jouer par cœur le refrain de la Marseillaise. Et si on faisait la moindre faute, on n'avait pas la permission. Et donc la musique, là, était dans une fonction tout à fait particulière de sélection de ceux qui allaient être de service le dimanche et de ceux qui allaient pouvoir partir sur un morceau, somme toute, assez connu. Un répertoire relativement étroit. Mais toujours est-il que là, j'ai rencontré quelques amis qui, comme moi, étaient suffisamment musiciens pour avoir été recrutés au moment du service militaire dans la fanfare. S'ils étaient pianistes, on les affectait systématiquement au trombone, pour une raison que je n'ai jamais pu pénétrer, mais c'était comme ça. Quiconque était pianiste devait apprendre le trombone. Moi, le flûtiste, on me mettait au piccolo, évidemment, la forme militaire de la flûte, etc. Quelques violonistes se retrouvaient obligatoirement à la clarinette. Enfin, bon, finalement, c'était fait de briques et de broc. Mais j'avais quelques amis. On a commencé à discuter musique contemporaine. Et c'était l'époque aussi d'apparition du domaine musical, en réalité. Ouais. C'était le moment où l'installation de la musique contemporaine dans ses institutions, dans la figure naissante de Pierre Boulez, etc., était en train de se passer. Nous participions à notre manière à tout ça. Nous écoutions dans nos pioles militaires ce que nous trouvions comme disque, interprétation de la musique contemporaine. En même temps d'ailleurs que par ailleurs nous jouions pour notre propre plaisir des trios de la musique baroque pour violon, piano et hautbois, des choses de cet ordre. Et alors là, j'ai découvert avec mes amis la nécessité de s'informer, d'entrer dans cette musique, de la comprendre. Et c'est là que a commencé mon parcours dans la musique dite contemporaine.
Mais alors que vous étiez à l'armée, c'est ça, en train de faire votre service.
Oui.
C'est surprenant quand même comme lieu de naissance d'un goût pour la musique de Schoenberg.
Alors ben oui, c'était. Je dois dire que nous ne jouions pas souvent du Schoenberg.
Oui, j'imagine.
Parce que quand nous jouions, c'était toujours dans des festivités militaires.
Bien sûr.
Par exemple, nous devions attendre un général qui venait inspecter. Mmh. Et alors, nous attendions dans un hiver glacial, avec nos guêtres et tout ça, bien en rang. Et quand il descendait de l'avion, nous devions jouer « V'là le général qui passe », voilà, avec toute l'énergie dont nous étions capables. C'était un apprentissage qui ne conduisait pas directement à Schoenberg, ça c'est indubitable. Et Schoenberg, on a donc dû le conquérir par nos propres moyens, latéraux, le service militaire, c'est le service militaire, il y a des trous, il y a des failles, il y a des endroits où on ne fait rien, très nombreux d'ailleurs. Et là, nous pouvions nous cultiver,
Les premières mesures des Cours Lieder d'Arnold Schoenberg, version Seiji Ozawa, 1979. Vous avez choisi cette œuvre-là, Alain Badiou. On va en reparler dans quelques instants. C'est bien parce qu'elle fait en quelque sorte le lien avec la 8e symphonie de Mahler. Elle a le même gigantisme, la même volonté évidemment de réunir les effectifs orchestraux et puis le côté fresque qui va avec tout ça. Mais c'est un Schoenberg un peu originel. C'est celui que vous préférez, j'ai l'impression. Enfin, j'ai cru comprendre en tout cas.
Vous savez, mon ami François Nicolas, qui est musicien et qui a écrit aussi un grand livre de critique musicale qui s'appelle Le Monde Musique, a écrit un petit livre qui s'appelle L'événement Schoenberg. Mmh. Or, un événement, c'est toujours quelque chose qui est entre un achèvement et un commencement. L'événement, ce qui se passe, est à la fois une coupure sur ce qu'il y avait et est... la promesse de nouvelles possibilités qui sont à venir. Et je crois que Schoenberg, il a raison de parler de l'événement Schoenberg, parce que Schoenberg, c'est typiquement un mélange des deux, en effet. Mmh. En un certain sens, il y a, chez Schoenberg, quelque chose qui participe du sentiment de la fin hérité de Mahler. On l'entend, là, manifestement. Il ne perdra jamais complètement de vue cette fonction de fin. Mmh. Et par ailleurs, il y a un audacieux créateur qui va avoir... quasiment s'engager, selon ses propres termes, dans le projet prométhéen de sauver la musique allemande pour 100 ans, avec une mutation absolue portant sur les fondements même de la musique occidentale, le système tonal, etc., etc. J'aime bien ces œuvres un peu incertaines de Schoenberg qui se situent entre la tonalité en voie de s'asphyxier elle-même, si je puis dire, héritée de Mahler d'un côté, et d'autre part, la raideur naissante du dodécaphonisme comme système destiné à remplacer la tonalité. Alors, ce sont des œuvres un peu errantes, un peu incertaines, et ce début des Cours Lieder nous en donne absolument l'écoute, enfin le sens. J'ai un certain attachement à ces œuvres en tant que, justement, elles sont dans l'incertitude de l'événement. Mmh. Schoenberg ne sait pas encore où il va aller, et cependant, il veut aller quelque part. Après, nous avons les exercices inauguraux de la nouvelle musique proprement dite, c'est-à-dire les exercices dodécaphonistes et l'orientation vers le sérialisme. Il y a là, comme dans toute expérimentation naissante, quelque chose d'un tout petit peu... asséché, quelque chose d'un tout petit peu raide. C'est pas un reproche, ça ne pouvait être que comme ça. Ça n'allait pas sortir tout d'un coup, armé de pied en cap, de ses nouveaux atours, si je puis dire. Il fallait que ce soit comme ça. Mais, au fond, j'aime chez Schoenberg ce côté adieu au monde ancien qu'il a habité avant de passer lui-même une terrible frontière.
Quand vous parlez d'événements à la Badiou, évidemment, l'un des modèles de l'événement dans votre philosophie, c'est l'événement politique, hein, bien sûr. Et il y a un parallèle qu'on peut faire entre la musique à cette période-là et l'idéologie telle qu'elle se construisait aussi avec l'idée d'une avant-garde qui devait porter vers un futur, vers un ailleurs. Il y a un parallélisme entre, on va dire, le communisme, hein, prononçons le terme, et ce qu'a été la musique à cette période aussi bien en Allemagne qu'en France, surtout autour de la personnalité de Pierre Boulez. Est-ce que vous le faites aussi, ce parallèle-là?
Oui, je pense que de toute façon que la période de la première décennie ou des 20 premières années du XXe siècle est une période tout à fait extraordinaire à cet égard. Il y a des mutations essentielles dans tous les domaines. Même en science, la relativité d'Einstein et la nouvelle algèbre introduisent des modifications radicales. En musique, la révolution Schoenberg, elle est là et elle se déploie. Mais c'est aussi le moment où, en peinture, Picasso et Braque constituent la nouvelle peinture non figurative. Et c'est extraordinaire, ce bouillonnement. Et alors, c'est aussi l'époque où on a Lénine et les nouvelles configurations de la politique communiste. Donc, on peut dire que ce début du XXe siècle était parti pour un élan créateur tout à fait extraordinaire, absolument dans tous les domaines. Ce qui est venu le perturber gravement, c'est la guerre de 14. C'est-à-dire que tout ça, finalement, tout cet élan, toute cette imagination, toute cette invention, s'est trouvé tout d'un coup confronté à une sorte de catastrophe funèbre, sans précédent, d'une certaine manière, le premier grand massacre, malgré tout, du XXe siècle. Et je pense que les musiciens, la musique et tous les autres créateurs ont dû traverser ce drame, armés qu'ils étaient de l'intention radicale de nouveauté, qui se heurtait quand même à quelque chose d'historiquement effrayant. Et alors, chez Schoenberg, ça a pris des significations qu'on sait, c'est-à-dire, en plus, lui, il était habité par la question juive, donc on a eu Moïse et Aaron, on a eu de véritables méditations sur tout ça, on a eu l'installation en Amérique, qui était aussi un épisode très complexe. Donc, au moment où nous sommes, là, dans le prélude des Gauleiters, nous sommes dans un malheur prolongé, malheur, Gustave, qui retient encore quelque chose de cette inventivité dans l'ordre de la fin et du commencement mélangé, qui a hanté tout le début du siècle. Et je suis attaché à cette œuvre pour cette raison. Mais il faut bien voir que, en définitive, ce qui s'est passé, c'est quand même la décision de franchir à la frontière.
Extrait de la première cantate d'Anton Webern, chantée par Christian Hölze, des membres du Philharmonique de Berlin, dirigé par Pierre Boulez. Vous parliez de frontières à franchir il y a un instant. Alain Badiou, là, par rapport à Schoenberg, elle l'est définitivement pour Webern, la frontière.
Oui, et du reste, Webern est devenu progressivement l'emblème reconnu de ce franchissement accompli. J'ai toujours pensé que dans la trilogie Schoenberg-Webern, l'école viédoise, chacun occupait une place distincte, une place différente. Il n'était pas exactement inscrit dans le même projet. Oui, le même projet de changer la musique, mais à l'intérieur de ce projet global, ils avaient une position distincte. Schoenberg, on a vu, c'est celui qui est à la fois celui qui termine et celui qui fonde, et à l'événement. C'est lui qui est en balance entre l'héritage du passé, qu'il maîtrise souverainement, et puis la percée vers l'avenir, sous sa forme quelquefois la plus ramassée, la plus... Webern est celui qui est le plus radical. C'est le gauchiste, si je puis dire, de cette aventure. C'est-à-dire, c'est celui qui va jusqu'au bout, qui va proposer un sérialisme intégral à tous les niveaux, y compris un sérialisme finalement des timbres, des nuances, etc. C'est celui qui va montrer que la musique peut se ramasser en des instants extrêmement courts si elle a le support de complexité suffisant pour que ce soit le cas. Donc on a, à l'inverse de la 8e symphonie de Mahler ou des Gauleiter, des œuvres qui durent quelques secondes. Bon. Et donc, on voit très bien qu'il a pu être, lui, le paradigme de la révolution accomplie, enfin, et du passage réellement dans un autre monde sonore. Et c'est pour ça que, y compris les grands novateurs français, Pierre Boulez le premier, considérait que Webern était le maître immédiat, le maître fondamental. En plus, il y a un côté dramatique dans la mort de Webern qui est quand même aussi, qui le constitue aussi comme une espèce de légende, cet artiste sacrifié dans l'occupation de Vienne. Alors, tout ça a fait un personnage qui est à la fois radical, qui a une nuance tragique et qui concentre en quelque sorte toutes les énergies de la nouvelle musique. Berg, c'est autre chose, à mon avis. Berg était capable de tout faire. On peut le comparer à des peintres comme Rubens, par exemple. Une maîtrise absolue de toutes les ressources, que ce soit l'opéra, que ça soit long, que ça soit court. Il sait tout faire, Berg. Et je pense que lui est à la recherche d'un nouveau principe de séduction. Ça n'intéresse pas Webern. Webern, c'est la radicalité de la musique comme telle. Elle peut séduire, mais c'est pas son problème. Pour Berg, je crois qu'il reste attaché quand même à l'idée que, à la fin des fins, la musique, c'est quand même une proposition sensuelle. Et non seulement sensuelle, mais aussi dramatique, lyrique, passionnée, etc. Et donc, il va exercer tout ça dans des registres tout à fait différents, en montrant la capacité de s'installer dans la musique moderne, mais sans faire de cette installation l'objectif principal de la musique elle-même. C'est pas un expérimental, c'est quelqu'un qui se promène dans les genres existants en les irriguant comme ça dans la nouvelle musique. Et ça va donner des œuvres dans des registres extrêmement différents, allant de la sonate pour piano en un seul mouvement, comme ça, qui est une œuvre tout à fait considérable, la restitution de la forme du concerto dans sa vigueur primitive avec le concerto La mémoire d'un ange, mais aussi et surtout, c'est celui qui, beaucoup plus que Schoenberg, qui restait dans des tentatives limitées, des petites œuvres, c'est celui qui s'est abandonné à l'opéra. C'est celui qui, avec Wozzeck, avec Loulou, a cherché réellement ce que pouvait être la formule de l'opéra moderne. Il s'est montré le maître aussi de l'orchestration. Et donc, je vois très bien la disposition des trois. Le fondateur nostalgique, l'expérimentateur radical et celui qui cherche à séduire de l'intérieur de la nouveauté elle-même. Et ils se sont disposés comme ça, comme le triangle fondateur de la nouvelle musique.
Il y en a un que vous préférez d'ailleurs sur les trois ?
Alors, c'est assez difficile parce que quand je préfère Schoenberg, je me sens quand même trop habité par la nostalgie du monde ancien. Quand je suis frappé quand même par Webern, j'ai tout de même l'impression d'un arrière-plan expérimental un tout petit peu sec, même si sa complexité est extrême, mais ça me rappelle les exercices d'algèbre moderne, un petit peu comme ça, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais enfin bon. Et donc, Berg, c'est celui qui veut séduire, il me séduit, voilà. Je constate son efficacité.
So true. weiß noch, Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen.
Zu Pfingsten 3 Jahre.
Und was meinst, wie lang es noch dauern wird?
Ich muss fort.
Fürcht dich, Marie. Bist doch fromm und gut und treu. Was du für süße Lippen hast, Marie. Den Himmel geb ich drum und die Seligkeit, wenn ich dich noch oft so küssen will. Aber ich darf nicht.
Was zitterst?
La mort de Marie au troisième acte de Wozzeck d'Alban Berg, chanté là par Anja Silja, Eberhard Wächter, dans la version de Christoph von Dornani. Réfléchissons ensemble sur ce qu'on allait pouvoir diffuser de Wozzeck, on est tombé d'accord sur ce meurtre. Alain Badiou, qui est un geste théâtral absolument incroyable, parce que le meurtre lui-même, en fait, passe comme ça, on entend bien le cri de Marie, mais musicalement, il se passe pas grand-chose, alors que ce qui véritablement déroule dramatiquement la chose, c'est les deux si, les deux grands accords qui viennent derrière, cette émotion reportée finalement après l'événement. Il y a plein de gestes comme ça chez Berg. C'est un sacré homme de théâtre.
Hein. Ah oui, mais c'est un grand musicien de théâtre, Berg, indubitablement. Et en particulier, il sait de façon extrêmement calculée disposer les instants d'intensité par rapport aux instants plus narratifs ou explicatifs d'une façon qui est apparemment paradoxale, mais en réalité tout à fait convaincante. En la circonstance, après tout, le fil conducteur de cet opéra, ce ne sont pas les faits à eux-mêmes, c'est la subjectivité de Vozek, la prospection de la subjectivité de Vozek. Et donc ce n'est pas tant le crime qui compte que l'effet que ce crime fait sur son auteur. Et ça, la musique le traduit immédiatement avec une violence extrême, violence qui est très calculée par Berg. Et de façon générale, je pense qu'il y a chez Berg un dramaturge. La conduite de la musique, même quand elle est instrumentale ou même quand elle n'est pas directement de l'opéra, est tout à fait de l'ordre de la construction émotive dans sa disposition générale. On revient à ce que je disais, Berg est celui qui a apprivoisé, si je puis dire, au maximum, les nouvelles données de la musique pour les rendre capables d'émouvoir le public, même un public qui n'est pas instruit des arcanes de cette musique.
Vous parliez il y a quelques instants, Alain Badiou, de ce parcours de la trilogie viennoise, où on faisait une sorte de, on peut dire, de petite histoire, enfin d'une histoire parallèle. C'est ce que vous faites aussi dans le livre que j'évoquais en début d'émission, Logique des mondes, où vous, là aussi, retracez en fait tout un parcours de la musique dans un des chapitres de ce livre, de la musique du XXe siècle, pour la mettre en parallèle, une sorte d'analogie finalement avec ce que pourrait être une pensée du sujet, comme si la musique pouvait servir, en tout cas dans ses grands mouvements, à singulariser ou résumer ce que pourrait être une sorte d'histoire du sujet moderne.
Oui, mais ça, je pense que c'est absolument lisible, y compris dans l'histoire que nous sommes en train de raconter, l'histoire de la trilogie viennoise, mais pas seulement. On voit très bien comment la manière dont la musique, cet immense monde de la musique tonale occidentale, comment elle s'est déployée, installée et comment elle est parvenue au sentiment de son achèvement après Wagner, en un certain sens, on voit très bien comment cela distribue des subjectivités et crée des subjectivités qu'on peut appeler des subjectivités musicales, mais qui sont métaphoriques de la subjectivité plus générale. Nous avons déjà vu la rétention événementielle avec Schoenberg, donc le sujet de l'événement comme tel. Nous avons vu avec Webern la radicalité révolutionnaire, en un certain sens, c'est-à-dire le fait que la subjectivité se tient dans une terrible discipline de fidélité à l'événement et ne veut pas en démordre. Hein. C'est le sujet fidèle dans sa forme la plus crispée. Dans vos vues avec Berg, la manière dont, sans renoncer à aucun des objectifs de la transformation, on essaie tout de même de tenir compte de la situation, si je puis dire, de ne pas considérer que ce n'est qu'une petite minorité d'élus qui vont pouvoir comprendre la musique. Tout ça est très parallèle à des questions comme la question des partis politiques. Le parti politique a-t-il pour mission de constituer une avant-garde fermée qui va conduire les opérations? Ce serait le parti politique wébernien. Est-ce qu'il a pour mission de conserver un tout petit peu ce qu'il y a eu avant, modérer, c'est la musique social-démocrate de l'avant-dernier Schoenberg, ou bien est-ce qu'il a pour mission de répandre à grande échelle dans le nouveau monde la nouveauté? Et ça, c'est la position de Berg. Et donc, je pense que on trouve là la subjectivité implacablement fidèle, la subjectivité accommodante, la subjectivité, et puis la subjectivité réactive. Et si on considère l'histoire de la musique française au XXe siècle, c'est tout à fait particulier, c'est intéressant aussi. Parce que grosso modo, Darius Milhaud, Poulenc, et puis même d'autres un peu plus audacieux, comme Jolivet par exemple, pour lequel j'ai une certaine tendresse, au regard de ce qui s'est passé, sont un peu réactifs, un tout petit peu conservateurs finalement. La musique française, elle s'est trouvée dans une situation conservatrice, à mon avis, parce qu'elle n'a pas tiré, elle, ce qu'elle aurait pu faire de leçons radicales de Debussy. Parce que, entre nous, Debussy est un peu le Schoenberg français. La comparaison a souvent été faite, mais je crois qu'elle est indubitable. Il y a que Debussy est celui qui sait aussi qu'un monde sonore s'achève et qui fait des expérimentations dans une direction qui n'est pas directement la construction d'un nouveau langage, mais un assouplissement, un mélange des langages existants, ce qui fait que sa descendance a plutôt consisté à dire que ce qui était important, c'était de modifier le timbre musical, la sonorité, plutôt que la construction formelle. Après, il y a eu un debussisme de second ordre, il faut bien dire. Debussy n'a pas eu immédiatement les successeurs qu'il méritait, je le pense. C'était peut-être de sa faute aussi, mais enfin, bon, c'est une autre affaire. Si on prend cette musique française, on voit se déployer un type de sujet qui est un sujet conservateur qui cherche à montrer que la conservation elle-même peut continuer à être inventive par des distorsions, par des aménagements, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même des œuvres de Darius Milhaud ou de Poulenc qui sont estimables. Je ne les jetterai pas. Et on parlera peut-être de tout ça dans notre dernière émission, mm-hmm. puisque je m'intéresse aussi à ce genre d'œuvres. Mais ça permet de dire qu'en effet, toutes les figures de subjectivité ont été présentes dans cette histoire de la musique du XXe siècle.
André Jolivet, un extrait de son concerto pour piano avec en soliste Lucette Deca, Ernest Bourg à la tête de l'orchestre du Théâtre des Champs-Élysées. Alors ça, je ne connaissais pas du tout cette œuvre-là. Alain Badiou, c'est vous qui me l'a fait découvrir aujourd'hui. Il faut dire que vous-même, vous l'avez découverte, c'est échange de bons intérêts, par la radio, c'est ça?
Oui, absolument. Absolument, je l'ai découverte en l'entendant à la radio une fois. Et je me suis d'abord dit, bon, voilà une fois de plus, des œuvres de la musique française qui... sont un peu néo-classiques, quoi, ouais. La forme du concerto pour piano, dans la tonalité bouleversée mais maintenue, etc., etc. Et puis finalement, en écoutant ce concerto, puis en écoutant les autres concertos de Jolivet, un concerto pour flûte, un concerto pour trompette, et je me suis dit, ben ça a tout de même une certaine tenue, ça a une certaine, c'est une proposition musicale qui n'est pas indifférente, et il faut que je l'enregistre quand même dans mon panthéon musical.
Ouais. Faut dire, dans votre manière de travailler, j'ai l'impression que lorsque vous vous accrochez à un sujet, je parle d'un sujet musical bien évidemment, hein, vous ne contentez pas du petit sujet lui-même, mais que vous systématisez un peu le savoir.
Oui, ça c'est peut-être une manie de philosophe, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser la singularité à son niveau de pure singularité. Hein. Il faut quand même que je la relève un peu, que je la soulève et que je puisse plaider pour elle de façon convaincante. Voilà. Je suis quand même, nécessairement, le philosophe est toujours l'avocat de ses propres goûts, est toujours en train de... Et là, en musique, c'est évidemment tout à fait le cas, même si cette plaidoirie, jusqu'à ce que vous me demandiez de la déployer ici, je la garde en général pour moi-même. Oui, oui. Et en fin de compte, c'est le cas pour cette œuvre, mais pour beaucoup d'autres. Si à un moment donné, elle me plaît, même si elle va à contre-courant de mes goûts principaux en musique, j'essaie de lui faire la place, et pour ça il faut que j'argumente, il faut que je me convainque moi-même, il faut que je me dise, bon, pourquoi cette chose-là me touche, me plaît. Je n'aime pas quand de toute évidence quelque chose a eu un effet sur moi, faire comme s'il n'y avait pas eu d'effet, voilà. Je pense que c'est quand même une honnêteté philosophique, comme ça. Si une œuvre musicale vous convainc à certains égards, eh bien, vous devez chercher pourquoi, vous devez accepter, au lieu de dire, bon, ben, finalement, en dernière sorte, c'était pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'en effet, je suis acculé à plaider pour mes goûts les plus circonstanciels.
Vous nous proposez ici d'écouter Alain Badiou, alors rien à voir avec ce qu'on vient d'avoir André Jolivet, même s'il est toujours question de piano, la sonate de Baraquet, qui est une œuvre un peu célèbre comme étant une œuvre excessive, on va dire très radicale dans le genre sériel grande époque, que vous aimez celle-ci, que vous n'aimez pas, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu critique en fait avec les deux voix.
C'est-à-dire la sonate de Baraquet, nous l'avons entendue et discutée dès l'époque dont nous avons parlé au début, ouais. À l'époque du service militaire, domaine musical, etc. Elle avait donc été créée peu de temps avant. Et un ami qui était un ami pianiste, qui était comme moi un caporal-chef de la fanfare, mais qui était un pianiste avisé professionnel, il était vraiment pianiste, m'avait dit cette sonate, elle a pour caractéristique principale d'être injouable. Mais je lui dis, c'est pas tout à fait vrai, puisque nous venons de l'entendre, malgré tout. Et alors, du coup, je me suis dit, cette sonate est en effet un témoignage ultime, peut-être à sa façon, de ce que peut donner l'héritage de Webern dilaté et pris avec un sérieux extrême. Et ça donne quelque chose quand même de presque indéchiffrable, je veux dire d'un point de vue sonore, mais où on discerne une espèce d'acharnement, d'emportement, à traiter jusqu'au bout avec cette syntaxe-là, avec la syntaxe du sérialisme déchaîné, l'univers sonore du piano. À ce titre, c'est quand même un monstre intéressant, voilà.
Parfois, les monstres le sont. Souvent,
et les monstres. Dans l'art, il faut toujours penser que peut-être le monstre représente l'avenir.
Thank you.
Quelques mesures de la sonate pour piano de Jean Baraquet, ce monstre, cette œuvre monstre dont Alain Badiou nous parlait il y a quelques instants, jouée là par Jean-Frédéric Neuburger. Arrivé quasiment à la fin de cette émission, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui a plané ici, Alain Badiou, dont on a à peine évoqué le nom, qu'on a écouté une petite fois, qui est Pierre Boulez, qui est quand même, bon, évidemment, celui qui a inventé et dirigé pendant des années le domaine musical, qui est, vous le savez sans doute, dans le milieu musical classique aujourd'hui, une sorte de surmoi qui reste là, enfin, de commandeur peut-être de la musique, de création de ce qu'a été la musique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce que vous l'avez rencontré justement dans vos pérégrinations au domaine musical? Est-ce que vous avez eu un rapport à lui ou à sa musique?
J'ai pas eu de rapport vraiment personnel avec Boulez, car la circonstance dans laquelle je l'ai vraiment croisé, c'est à Bayreuth, le Bayreuth dont nous parlerons dans une séance de nos prochaines rencontres. Voilà. Je pense qu'il y a dans la musique de Boulez, il y a des choses tout à fait remarquables, mais je pense que il faut prendre la mesure de la variété de son œuvre. Il y a des séquences, il y a des épisodes. Lui, je dirais volontiers que il a, en un certain sens, parcouru les trois virtualités ouvertes par la contemporanéité, la virtualité Schoenberg, la virtualité Webern et la virtualité Berg. Parce qu'il y a des œuvres de Boulez qui sont, de façon constructive et un peu rigide, des œuvres comme la sonate pour flûte et piano, les œuvres des années 50, d'une certaine façon. Il y a des œuvres qui sont plus ouvertes, mais tout en restant quand même dans l'extrême. Puis il y a des œuvres terminales qui s'ouvrent à la séduction bergienne, quand même, je pense. Par exemple, j'aime beaucoup Dérive 2. Je pense que dans Dérive 2, il y a une espèce de jubilation sonore et orchestrale. Je pense que Répond aussi est quand même une œuvre complexe, mais une œuvre qui cherche et vise le charme. D'ailleurs, les disciples les plus sectaires de Boulez ont trouvé à cette époque-là qu'il commençait à donner dans le debuchisme, vraiment.
Quelle horreur.
Qui était l'horreur absolue. Et donc, au fond, j'ai une grande admiration pour Boulez, dont je pense qu'il a été non seulement, en effet, un maître, une figure surmoïque, mais par ailleurs celui qui a quand même fait une carrière de chef d'orchestre intéressante par la variété de ce à quoi il s'est confronté. Voir Boulez diriger une symphonie de Bruckner, c'est quand même un point assez étonnant, comme ça. Mais en fait, il essaie de le faire, il essaie de faire entendre ça. Et puis, dont l'œuvre est exploratoire, elle a une variété, et elle accepte à la fois l'austérité et la séduction. Et en ce sens, je pense qu'il restera tout de même comme une figure essentielle de la musique.
Enfin, je note quand même Alain Badiou, vous qui êtes considéré en général comme un dangereux radical, que des trois viennois et des trois postures, celle que vous préférez à titre personnel, c'est celle du conciliateur, Alban Berg.
Mais j'ai toujours pensé que j'étais pas si radical qu'on le prétend. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'en réalité, j'étais un très honorable centriste. C'est simplement, la situation est tellement déportée vers la réaction que quand vous êtes un honorable centriste, vous apparaissez comme un radical furieux.
Et fait des temps. Les dernières mesures du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, Itzhak Perlman au violon, l'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Merci à Nelly Portal, Philippe Petit et Delphine Baudet. Je vous retrouve dimanche prochain, 17h, pour la suite de notre Alain Badiou, philosophe et mélomane. Le cinquième épisode sera sous le titre « Jouer ».
À réécouter sur francemusique.fr.